Bonjour à toutes et à tous. Nous avons affaire essentiellement dans l'évangile de Jean, nos lectures. J'aime bien l'évangile de Jean.
Bon, tous les autres aussi.
D'abord au chapitre 8, verset 12. Jésus vient de sauver de la mort une femme menacée de lapidation, selon la loi de Moïse. Vous connaissez cette célèbre parole, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Et puis la femme se retrouve là, libérée de toute menace, et Jésus lui annonce l'évangile. Je ne te condamne pas non plus. Va désormais, ne pêche plus. C'est ce qu'il ajoute après qui m'intéresse. Jésus leur parla de nouveau et dit : Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et maintenant, nous allons sauter au chapitre 9, parce qu'il me semble que ce verset que nous venons de lire est merveilleusement illustré par l'histoire qui vient. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question : Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit : Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient : N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ? Les uns disaient : C'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait : C'est moi. Ils lui dirent donc : Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? Il répondit : L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit : Va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent : Où est cet homme ? Il répondit : Je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit : Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent : Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent : Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle : Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ? Il répondit : C'est un prophète. Les Juifs ne crurent pas qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant : Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ? Ses parents répondirent : Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents lui dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté? Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Voilà qui est étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant trouvé, il lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, » lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, autrement dit, vous seriez excusables. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. Hein, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Seigneur, te prions de bénir cette méditation, bénir ta parole pour nos cœurs, que ton esprit, oui, nous ouvre les yeux. Amen. Moi, j'aime bien lire de temps en temps de larges extraits de la Bible. Comme ça, on ne dit pas de sottises. Le mendiant aveugle s'est trouvé sur le passage de Jésus sans l'avoir cherché. Il ne lui a rien demandé, mais Jésus l'a vu et s'est intéressé à lui. Et déjà, ça me permet de dire une chose. Tu dis, je ne vois pas Dieu, mais lui, Dieu te voit. Voilà. Son regard est sur chacun de nous. Les disciples aussi l'ont vu, mais pas avec le même regard. Avec le regard issu de l'antique sagesse populaire, qui voyait dans tout être souffrant un objet de la colère de Dieu. Qui a péché? À leurs yeux, naître aveugle est un malheur absolu. Il y a donc dû avoir une faute très grave pour ça, pour qu'il soit frappé de la sorte. Ça, c'est le monde de la religion, voyez-vous. La religion d'Israël, mais pas seulement. Toutes les religions du monde. Aucune religion du monde n'a pu osé croire à un Dieu uniquement et totalement miséricordieux. La réponse de Jésus est surprenante pour eux, parce qu'elle brise ainsi le lien de causalité entre la maladie et le péché. Elle fait changer de regard, elle fait changer de perspective. D'un pourquoi qui voudrait remonter à la cause, faire l'archéologie de ce malheur, l'évangile de Jésus passe à un pourquoi. Francine nous l'a dit il y a quelque temps, hein. Pourquoi ? À cause de quoi ? L'Évangile répond en vue de quoi ? Dans quel but ? Qui ouvre l'avenir ? L'Évangile de Jésus barre les chemins de la malédiction, de l'interdit, ou des fatalités oppressantes. L'évangile de Jésus ramène les exclus, les réintègre dans la communauté humaine. L'évangile de Jésus annonce un Dieu compatissant, miséricordieux et bon. Pour Jésus, le temps d'agir s'inscrit entre le jour et une nuit qui s'approche. La nuit vient où personne ne peut travailler. Entre parenthèses, en réfléchissant à cette parole de Jésus, je me suis dit que Jésus parle bien en homme de son temps, parce qu'il n'y avait pas l'éclairage public, il n'y avait pas le travail de nuit, les lumières allumées 24 heures sur 24. À 6 heures du soir, la nuit tombe dans le Moyen-Orient. Et personne ne peut travailler. On ne va pas labourer à la bougie. Donc pour Jésus, c'est un signal important. Quelle est cette nuit qui s'approche pour lui, où il ne pourra plus travailler ? Eh bien, pour Jésus, il est impératif et urgent d'agir avant d'être ôté du monde par la croix. C'est pour lui qu'il dit ça d'abord. Mais ça nous concerne aussi. Notre temps est mesuré. Ne tarde plus, adore, hein, comme on vient de le chanter. Les œuvres que Dieu a préparées pour lui, par avance, font resplendir la lumière du règne qui s'annonce. Pour nous également, cet impératif et cette urgence demeurent. Car dans l'absence de Jésus, entre l'ascension et son retour, ce sont par les œuvres bonnes préparées par Dieu pour nous d'avance que resplendit la lumière de ce règne. Il ne s'agit pas d'une lumière métaphysique, d'une lumière spirituelle, mais il s'agit de mettre en évidence le royaume de Dieu, de le faire voir dans nos gestes, dans nos œuvres. C'est comme ça que le royaume de Dieu, aujourd'hui, peut se manifester aux yeux des gens. Il a préparé des œuvres pour que nous les pratiquions. Matthieu ne dit pas autre chose dans le début du sermon sur la montagne, hein, que vous connaissez, chapitre 5, versets 14 à 16, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Vous voyez, Jésus, là, dans Jean, dit « Je suis la lumière du monde ». Et dans Matthieu, il dit « Maintenant, c'est vous qui êtes la lumière du monde ». Une ville ne peut pas être, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On ne met pas la lampe sous le boisseau, mais sur le chandelier. Vous connaissez ça. Et il ajoute « Que votre lumière brille devant les hommes » pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Donne gloire à Dieu, disent les pharisiens à cet aveugle. C'était une sorte de traditionnelle adjuration. Ça donnait un caractère solennel, un peu comme au tribunal. Jurez-le. Donne gloire à Dieu. Eh bien, ce que Dieu cherche, c'est que les hommes, les femmes, le monde entier finissent par donner gloire à Dieu. Donc la réponse pour eux est surprenante parce qu'eux, ils ont grandi dans l'idée du Dieu vengeur. Lorsque nous étions à Royan, on a eu 4 garçons qui sont nés à Royan en presque 5 ans. Alors on a eu une travailleuse familiale. Et un jour, on nous a envoyé comme travailleuse familiale une religieuse. Elle est venue sur les Chardons parce qu'on lui avait dit « Vous allez travailler chez le pasteur des témoins de Jéhovah. » Alors elle avait très peur. Et puis on avait des réunions de prière le matin, en bas, au rez-de-chaussée. Et ça l'a intriguée. « Mais c'est quoi ici? Vous faites quoi ?» Ben, je lui ai expliqué. Voilà, c'était une église évangélique. Et puis on avait l'habitude de prier. On s'encourageait à beaucoup prier. Et alors là, elle a été comme soulagée. Et on s'est mis à parler du Seigneur, très simplement. Et elle m'a fait cette confidence. J'ai mis 20 ans pour découvrir que Dieu n'était pas un Dieu vengeur. Vous voyez ? Comme ça, profondément inculqué dans la tête des gens. Comme à l'époque de Jésus. Lisez les psaumes. L'Éternel punit ceux qui dévient. Lisez tout l'Ancien Testament, c'est ça. Et donc, normalement, tout le monde vivait un peu dans cette crainte. Peut-être que ça avait quelque chose de bon. Et peut-être que ce serait pas mal pour notre époque que la crainte de Dieu revienne un peu. N'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas, il veut pas faire peur. Il ne veut pas obtenir l'obéissance par le réflexe de la peur, mais il veut obtenir l'obéissance par amour, l'obéissance de la foi, qui est un geste de reconnaissance, un geste de louange qui nous engage. Donc c'était surprenant pour eux, ce n'est pas que ses parents ou lui aient péché. D'ailleurs, on se demande bien, comment un homme pourrait pécher avant sa naissance, dans l'utérus de sa mère? Mais vous savez qu'il y a des théories qui courent parfois et qui incitent les gens à remonter vers les péchés des ancêtres qu'il faudrait confesser parce que... Nanana. Mais mes amis, il s'est passé quelque chose entre deux. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Jésus est mort pour nous sur une croix. Voilà ce qui s'est passé entre deux. Et voilà qui barre la route à tous ces héritages, ces fatalités, ces pesanteurs. Tu es libre. Prends courage, tes péchés sont pardonnés, dit Jésus au grand scandale des Juifs. Je rappelle que quand l'évangile de Jean parle des Juifs de cette manière, il ne parle que des chefs religieux, pas du peuple juif. Comprenons-le bien. Une autre surprise dans ce texte. Jésus agit un jour de sabbat. Ouais. Pour nous qui lisons l'évangile, on n'est pas tellement surpris, parce qu'il y a plusieurs passages où il est précisé que Jésus agissait le jour du sabbat. Mais essayons de nous mettre dans la tête et dans l'esprit des gens de cette époque. Les lecteurs, enfin, les gens de cette époque, cela est sacrilège. Faire de la boue un jour de sabbat, c'est sacrilège à leurs yeux. En relativisant le sabbat, en donnant priorité à l'urgence des œuvres miséricordieuses de Dieu, du Dieu qu'il révèle, Jésus ébranle le socle de la judéité de son temps. Ça va beaucoup plus loin qu'un simple geste sacrilège. Ça touche à l'identité. Ouh là là, explosif l'identité. Vous le savez comme moi aujourd'hui. On revient au communautarisme de toutes sortes. Si vous touchez à l'identité, vous touchez du TNT. C'est l'identité NT. Si j'ose ce jeu de mots. Oui, les questions identitaires sont brûlantes, dangereuses aujourd'hui. Et cela ne sera pas pardonné à Jésus. Cela va le conduire à la croix, justement. Comment peut-il guérir le fils d'un le serviteur d'un officier romain? Comment peut-il guérir la fille d'une femme syro-phénicienne? Comment peut-il faire le détour par un bourg des Samaritains et s'y attarder 2-3 jours? Comment peut-il faire cela? Comment peut-il parler à une femme? Hein? C'est écrit, ça. Dans Jean, chapitre 4, Jésus et la Samaritaine. C'est pas un magasin, hein? C'était une femme qui elle-même est étonnée. Comment m'adresses-tu la parole à moi, qui suis une femme, premièrement, samaritaine en plus. Elle a tous les défauts. Je vous dis tout ça pour faire toucher du doigt ces mentalités-là, basées sur la défense d'une identité. Les purs intégristes de la lettre, qui tenaillent l'aveugle guéri, pour l'amener à faire de Jésus un imposteur, sont les mêmes qui voulaient lapider la femme adultère. Moïse nous a dit la lettre. Ce sont les mêmes qui finalement triompheront de Jésus en le faisant mourir sur la croix. Jésus est mort par la loi. La parole de Dieu défendue par ses intégristes. Delphine Horviller, vous ne connaissez pas? C'est une femme rabbin du judaïsme libéral de France. Elle a eu cette phrase: un terroriste est toujours un intégriste. Toujours. Que ce soit au nom de l'islam, du judaïsme, du catholicisme, du christianisme, il y en a eu. Il ne faut pas oublier l'Inquisition, la persécution des cathares, les croisades. Et là encore, ne jetons pas la pierre, comme si nous, chrétiens, n'avions jamais péché. Hein ? Un intégriste, un terroriste est toujours un intégriste. Il y a encore une surprise dans ce texte, mais non sans signification. La méthode que Jésus déploie pour guérir l'aveugle. Je m'arrête. Hein. Cracher par terre. Il paraît qu'autrefois, c'était interdit de cracher par terre et de parler breton, à une époque, ici, en Bretagne. Cracher par terre, si vous allez à Lorient et qu'on vous surprend en train de cracher par terre, vous avez une amende, une contravention. Eh bien, Jésus crache par terre et fait de la boue. Et avec ses doigts, met cette boue sur les yeux de l'homme aveugle. Certains commentateurs ont rapporté ce geste au deuxième récit de la création dans Genèse 2. L'homme est créé de la poussière de la terre et la salive qui sort de la bouche de Jésus a été rapportée à la parole créatrice. C'est une interprétation. L'aveugle guéri vivrait donc une sorte de nouvelle création de ses yeux. On en fait ce qu'on en veut. Pour ma part, je me pose une question. Pourquoi donc ajouter de la boue, de l'opacité, sur les yeux d'un aveugle pour aussitôt l'envoyer se laver? C'est un peu déconcertant, non? En fait, je pense que Jésus agit à la manière des prophètes de l'Ancien Testament, comme Ézéchiel ou Jérémie. Vous connaissez cette phrase « Voyez-vous ce que je veux dire ?» Eh bien, c'est ce que font ces prophètes. Ils mettent en scène leur message. Et je pense que c'est ce que Jésus fait là. Ce que Jésus veut dire par ce geste, c'est qu'il est bien l'envoyé du Père vers qui nous devons aller pour être guéris. Et ce n'est pas par hasard que Jean nous donne la signification du nom de la fontaine ou de la citerne vers lequel il envoie l'aveugle. Ce Siloé signifie envoyer, envoyer. Pour rencontrer Dieu, il faut aller vers son envoyé. Moi, dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Et ce sera là le cœur du conflit entre Jésus et les chefs religieux. Que tous soient un, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Les religieux qui avaient décidé d'excommunier quiconque reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Vient-il de Dieu ou n'est-il qu'un imposteur, un transgresseur de la loi? C'est vraiment le nœud central, le cœur du problème de tout l'Évangile. Et ce conflit est aussi entre les chefs des Juifs et l'ancien aveugle. Ils veulent lui enlever la confiance qui vient de naître en lui. En effet, dans un premier temps, l'homme guéri déclare que pour lui, Jésus est un prophète, un peu comme les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, déjà, pour lui, Jésus est envoyé par Dieu, comme un prophète. Et il va s'accrocher à cette foi naissante, incomplète. Mais elle lui fera tenir bon et résister aux pressions menaçantes exercées sur lui. La lumière donnée à ses yeux s'est aussi levée dans son âme. Car les guérisons que Jésus opère se font toujours sur les deux plans de l'être humain, physique et spirituel. C'est pourquoi le même terme grec du Nouveau Testament utilisé pour guérir, c'est le même qui est utilisé pour sauver. Guérir, sauver. Jésus ne l'a pas abandonné. Le verset 35 nous dit qu'il l'a trouvé. Tiens, tiens, c'est donc qu'il l'a cherché. Jésus n'a pas abandonné cette brebis qui venait tout juste de découvrir sa liberté. Il l'a cherché et il l'a trouvé. Merveilleux sauveur, qui n'abandonne pas celles et ceux dont la foi est encore balbutiante. Peut-être que quelqu'un ici ce matin se dit « Oui, ma foi, elle est un peu hésitante, elle est un peu incomplète, boiteuse. » Mais Jésus est là et il ne t'abandonne pas. Il te cherche. Et Jésus va l'aider à expliciter cette foi jusque-là implicite. Crois-tu au Fils de Dieu? Ah, cette fois-ci. Voilà. Certaines versions traduisent « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Peu importe. Que ce soit « Fils de l'homme » qui est un titre messianique, que ce soit « Fils de Dieu » qui revient au même. sa disponibilité à croire est immédiate. Et qu'y a-t-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? Quel contraste avec la mauvaise foi des religieux qui, devant l'évidence d'un fait, ne veulent pas le voir. Tout ce qu'ils veulent voir, c'est que Jésus a transgressé le Shabbat. Quand même. Quelle hypocrisie, hein ? Ainsi est l'esprit religieux du monde. L'hypocrisie se rencontre à tous les carrefours. Mais pas avec Jésus. Ça ne marche pas. Au verset 35 à 38, Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant trouvé, il lui dit : « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Et il répondit : « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? » Tu l'as vu, et pour cause. Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit : « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Il l'adora. Où l'on voit que la foi en Jésus-Christ, Seigneur, apporte plus l'épée que la paix. Si vous pensiez qu'une fois converti au Seigneur Jésus, vous nageriez dans la quiétude, détrompez-vous. N'est-ce pas ? Quelqu'un a dit que l'Évangile était là pour apaiser les inquiets et inquiéter les satisfaits. Mais pour nous aussi, la foi en Jésus-Christ nous jette dans un conflit avec le monde, enfin l'esprit de ce siècle. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans notre pays, une telle foi en Jésus ne nous expose pas à l'hostilité du monde qui serait plutôt indifférent. Quoique, et qui sait ? Parce que les lignes bougent, hein, comme on dit. Elles ne vont pas dans le bon sens. Alors, apprêtons-nous à retrouver une âme de résistant, à retrouver un attachement profond au Seigneur, afin de ne pas être emporté par les mauvais vents qui se mettent à souffler. Les 6 premiers versets du chapitre suivant, je n'ai pas voulu prolonger la lecture, mais c'est une petite parabole dont il nous est dit que les disciples n'ont pas compris ce qu'il leur disait. Je peux les lire ? Ça va ? C'est pas trop... Chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et c'est ce qu'a fait cet aveugle-né. Exactement ce qu'il a fait. Il a senti toute la fausseté de leurs arguments. Il devient même ironique. Ah ben voilà bien qui est étonnant. Vous ne sachiez pas d'où il est. Et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Vous comprenez ? Oui. Elles fuiront loin des étrangers parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Vous savez, je crois que le Saint-Esprit nous donne du flair. C'est quoi le secret des douaniers suisses ? Le flair. Eh bien, je crois que le Seigneur nous donne du discernement. C'est dit plus élégamment. Et moi, je prie souvent pour que le Seigneur donne ce discernement à ses enfants, dans les temps que nous vivons, du discernement, de l'antenne. Vous avez des antennes, hein ? Vous saviez ? Quel rapport pourrait avoir cette histoire ? Avec notre époque. Je terminerai par là. Le monde actuel n'est manifestement plus préoccupé par la loi de Dieu. Bien au contraire. Est-il pour autant sans loi religieuse? Parce qu'il faut faire la distinction entre la foi et la religion. Et notre époque, qui se proclame soit athée, soit agnostique, en tout cas qui a balancé par-dessus les moulins toute crainte de Dieu et de sa parole, n'est pourtant pas sans religion. Et il y en a une qui prend du poil de la bête actuellement. C'est l'économie. Je viens de lire un ouvrage de Stéphane Foucard. Comment l'économie est-elle devenue religion? Et ce livre commence curieusement. Il raconte l'histoire d'une promenade qu'il a faite avec son fils dans le 2e arrondissement de Paris. Il passe devant une église. Et puis il passe devant la bourse, le palais Brongniart. Et le petit garçon de 4 ans lui dit « Papa, c'est quoi cette église ?»« Tiens, tiens. » Vous savez peut-être que le palais Brongniart a été construit sur les vestiges d'un monastère. Et si vous regardez les photographies de toutes les bourses du monde, elles sont toutes construites sur le modèle des temples grecs. Les colonnades, les frontons, et même les bâtiments du Capitole aux États-Unis. C'est curieux quand même. La religion qui domine le monde aujourd'hui et qui a ses liturges, ses serviteurs, ses hymnes, ses sacrifices. Cette religion-là a autant de nuisances que ne l'était celle de l'époque de l'aveugle-né qui voulait étouffer la parole de Dieu. Oui, quelle est la religiosité nouvelle, asservissante, discriminante, désignant des coupables? Les chômeurs sont des coupables. C'est de votre faute, voyons. Vous ne cherchez pas de travail. Il n'y a qu'à traverser la rue. La culpabilisation. Qui sont aujourd'hui les gens de mauvaise vie? Les surendettés? L'histoire de Marie, dans le nord de la France, qui élève seule ses enfants et qui, avant le 10 du mois, est à sec. Cette femme qui a découvert de plus en plus profond n'a d'autre travail que des petits boulots à gauche, à droite. Elle s'enfonce. Elle se sent honteuse. En plus, finalement, je pense que nous sommes dans une époque très religieuse. Et il nous faut vraiment le discernement du Seigneur et aussi la grâce de manifester le royaume de Dieu par des gestes de miséricorde, d'accueil, de dialogue avec nos voisins. Un sourire, une poignée de main, c'est déjà un peu l'Évangile. À quelle pression sommes-nous invités à résister, comme l'aveugle guéri l'a fait? Ce sont ici des pistes de réflexion, je ne vais pas développer plus loin. Amen.